écoutez VO Afrique, il est 15h à Washington DC, 19h en temps universel. Rosine Mounezelo dans son studio pour vous présenter ce bulletin d'information. Bonsoir et bienvenue. Le président kényan William Ruto s'est dit prêt à une conversation avec des milliers de jeunes manifestants qui se sont rassemblés dans tout le pays la semaine dernière contre un projet de nouvelle taxe que l'administration du président Ruto juge nécessaire pour redonner des marges de manœuvre au pays lourdement endetté. Deux personnes sont mortes et des dizaines ont été blessées lors d'une manifestation jeudi dans la capitale Nairobi, selon des défenseurs des droits de l'homme. Toujours au Kenya, une force de police kenyane partira pour Haïti le 25 juin pour mener une mission soutenue de par l'ONU destinée à combattre la violence des gangs dans le pays caribéen, ont indiqué des sources gouvernementales et policières. Dimanche, le Kenya a proposé d'envoyer un millier de policiers pour stabiliser Haïti, aux côtés de personnel envoyé par plusieurs autres pays. La mission a été approuvée par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU en octobre dernier, mais au Kenya, l'opération a suscité de vives critiques et un tribunal kényan avait reporté le déploiement en janvier, le juge estimant que le gouvernement kényan n'avait pas l'autorité pour envoyer des policiers à l'étranger sans une autorisation spéciale. L'armée nigérienne dit avoir tué un membre de l'État islamique, Abdoulaye Suleiman Idoual, lors d'un raid militaire dans la région de Tillaberi, dans l'ouest, où il est influent, a-t-elle annoncé dans son dernier bulletin publié dimanche sur Internet. Jeudi, 9 terroristes ont été tués et 31 autres arrêtés par la patrouille d'une opération anti-djihadiste au sud-est de Terra, également dans la région de Tillaberi, a ajouté l'armée. Par ailleurs, le président mauritanien Mohamed Oud Cheikh El Ghazouani a appelé, dans un entretien avec l'AFP, les pays d'Afrique de l'Ouest à s'allier à nouveau face à l'expansion du djihadisme après la scission de trois pays sahéliens avec les organisations régionales. Monsieur Ghazouani a plaidé pour un éventuel substitut à l'alliance du G5 Sahel, créée en 2014 par la Mauritanie, le Burkina, le Mali, le Niger et le Tchad, avec l'appui de partenaires occidentaux pour faire face au djihadisme et aux défis de développement de la sous-région et dotée d'une force conjointe à l'action restée limitée. Les juntes du Mali, du Burkina et du Niger ont décidé en 2022 et 2023 de se retirer du G5 Sahel, instrumentalisé selon elles par la France. Au Rwanda, la campagne de la présidentielle du 15 juillet s'est ouverte officiellement samedi. 9 millions d'électeurs sont inscrits pour ce scrutin, pour la première fois couplé avec des législatives. Le 15 juillet, le président sortant, Paul Kagame, sera opposé aux mêmes adversaires qu'en 2017. Le chef du Parti démocratique vert, Franck Habineza, et l'ancien journaliste Philippe Maïmana. Victoire Ingabire et Bernard Ntaganda de l'opposition n'ont pas eu la possibilité de se présenter en raison de condamnations passées. La commission électorale a également invalidé la candidature de Diane Rwigara pour documents non conformes. L'ex-président américain Donald Trump a exhorté samedi les chrétiens évangéliques essentiels pour sa course à la Maison-Blanche à voter pour lui lors de la présidentielle de novembre, se présentant comme un croisé de la liberté religieuse. C'était lors d'une conférence de la coalition Faith and Freedom, Foi et Liberté. Monsieur Trump a assuré aux évangéliques qui ont pu jouer un rôle important dans son accession au pouvoir en 2016, et dont beaucoup lui sont très fidèles, qu'ils défendraient leur foi. Le ministère russe de la Défense a accusé les États-Unis d'avoir une responsabilité dans une frappe meurtrière dimanche en Crimée, péninsule annexée, car elle aurait été conduite avec des missiles fournis par Washington à Kiev. De telles actions ne resteront pas sans réponse, a-t-il ajouté. L'attaque de missiles a fait 3 morts, dont 2 enfants et une centaine de blessés à Sébastopol, selon le gouverneur local installé par Moscou.
Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique. et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue dans le dialogue des religions. Eric Manilakiza avec vous, Michel Claire Joseph assure la réalisation et la production. Ce soir, réinventer le divin, c'est notre sujet. Ce dialogue des religions discute de l'influence potentielle d'une représentation divine féminine sur la société actuelle. Elle explore comment cette division pourrait transformer la spiritualité individuelle, redéfinir les dynamiques de genre et promouvoir une plus grande égalité dans les croyances et les pratiques religieuses. Pour en parler, je suis en ligne avec le professeur Mohamed Mbodj, professeur à Manhattanville University à New York. Professeur Mbodj, bonsoir.
Bonsoir.
Je rappelle que vous êtes historien, mais aussi spécialiste des religions.
Bonsoir et je suis heureux d'être là.
Pour commencer, professeur, on va d'abord parler de l'évolution des représentations féminines dans l'islam. Voudriez-vous nous expliquer comment l'islam a historiquement conceptualisé le divin et s'il existe des figures féminines importantes dans les textes ou traditions islamiques ?
Oui, tout à fait. Tout d'abord, à signaler quelque chose de très connu, que la représentation des femmes, la mention des femmes et le statut, les droits, obligations, privilèges et autres dans l'islam et en particulier énumérés dans le Coran représentent un certain progrès par rapport à la société arabe ambiante d'avant l'islam anti-islamique où finalement les femmes étaient des biens possédés par leur mari, par leur père, échangés pour telle ou telle raison, quelquefois pour des raisons prestigieuses, bien entendu, quelquefois aussi pour des raisons sordides et qui n'avaient pas beaucoup de personnalité juridique. Sauf que certaines femmes, comme par exemple la première femme du prophète Mohammed, étaient parvenues à être une femme d'affaires qui possédait son propre business, comme on l'aurait appelé aujourd'hui. Et d'ailleurs, fut le premier employeur du prophète Mohammed qu'elle recruta dans son entreprise et qu'elle finit par marier. Donc, il y a cette image donc assez effacée, sauf remarquables individus comme Khadija que je viens de citer. Mais d'une manière générale, dans l'islam, la femme n'a pas de statut particulier comme musulman, elle a les mêmes obligations, la prière, le ramadan, les pèlerinages, etc., etc. Et elle sera jugée, le jour du jugement dernier, elle sera jugée par rapport à ce qu'elle a fait, par rapport à ce qui est dans son cœur, ce qu'elle a fait de bonnes actions, etc., etc. Donc, de ce point de vue-là, la responsabilité individuelle du musulman ne connaît vraiment pas de genre. Bien entendu, maintenant, la femme, avec ses attributs biologiques, a des devoirs qui sont liés à ses réalités, tandis que l'homme a d'autres obligations qui sont aussi liées à sa représentation biologique. Alors, donc, d'une manière générale, c'est comme ça que peut-être on peut commencer pour dire que, mais en fin de compte, la spiritualité, la pratique de l'islam, la sincérité dans la pratique, etc., est attendue au même degré de l'homme que de la femme. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a vraiment pas beaucoup de différence dans l'islam. Chaque individu, chaque musulman est face à son destin. Et s'il y a damnation ou si on est sauvé de l'enfer pour entrer au paradis, c'est plutôt sur des actions individuelles plutôt que simplement par défaut les femmes iront au paradis pour telle ou telle chose ou les hommes iront en enfer pour telle ou telle chose. Donc de ce point de vue-là, c'est très clair. Alors dans les premiers temps de l'islam, maintenant il y a effectivement des femmes remarquables que j'ai citées Donc Khadija, la première épouse du prophète Mohammed, qui était aussi une femme d'affaires et qui donc est aussi souvent crédité d'avoir été sa première convertie, parce que lorsqu'il avait ses visions, lorsqu'il avait et que tout le monde s'interrogeait sur sa santé mentale, elle se rassura pour lui dire qu'elle croyait en ce qu'il disait, qu'elle croyait qu'effectivement il avait une mission à accomplir et qu'il était véritablement le messager de Dieu. Donc de ce point de vue-là, on peut dire que Khadija bint al-Khuwailid, donc sa première femme, est souvent considérée comme la première convertie à cause donc du soutien de son mari. Mais du temps du prophète, il y a d'autres femmes remarquables qui font partie de l'histoire de l'islam. Tout à l'heure, je reviendrai sur les femmes dans le Coran, mais ici, je campe un peu l'aspect historique. Par exemple, lorsque le Coran est rassemblé, les différents versets du Coran que le prophète Mohammed a prononcés dans ses prêches, dans ses consultations, les révélations qu'il a faites, etc. Donc, il fallait rassembler le texte. Et lorsque on rassembla le texte, avant de l'éditer et de faire la version finale du Coran que nous avons maintenant, et qui est une version unique, ce manuscrit fut confié à une des épouses du prophète Mohammed, Hafsa. Donc Hafsa était digne de confiance, tel qu'on pouvait lui confier la première mouture, le premier manuscrit complet du Coran. Donc le texte religieux fondamental de l'islam, c'est une femme qui l'a gardé jusqu'à sa publication dans sa version finale. Donc ça, c'est quelque chose dans l'histoire de l'islam qu'il faut noter. Une autre épouse du prophète Mohammed, Aïcha bin Abu Bakr, était une enseignante, une professeure, on dirait aujourd'hui, une confidente du prophète, auprès de laquelle une grande partie de la tradition du prophète, qu'on appelle les hadiths, c'est-à-dire les récits de sa vie, de ses prêches, de ses jugements, de ses avis, de ses entretiens avec les gens, etc., etc. Elle est l'une des principales, sinon la principale source, avec plus de 2000 traditions qui ont été collectées auprès d'elle. Et donc, c'était une femme, évidemment, éduquée, très au fait de ce qui fait d'elle, qu'elle avait ses propres élèves qui suivaient des cours avec elle. Et donc, elle était vue comme ce qu'on peut appeler actuellement une intellectuelle à part entière qui était capable de transmettre des connaissances. Et il y a d'autres femmes, donc, dans cette période, comme Umm al-Darda, qui est assez controversée d'une certaine façon, mais qui a vécu au temps du prophète, qui est aussi une intellectuelle, une femme de caractère, une juriste, tellement considérée qu'elle publiait des fatwas, c'est-à-dire des décisions de jurisprudence, un peu comme les juges actuellement, et les conseils suprêmes ou les cours suprêmes sortent des arrêts qui fixent définitivement tel ou tel problème en donnant une solution juridique. Elle était suffisamment forte et assise intellectuellement pour avoir la capacité de publier des fatwas. Et donc, elle aussi, elle a enseigné à beaucoup d'étudiants, donc qui ont été assez importants d'ailleurs dans l'histoire de l'islam de manière générale. Et une femme qui est derrière les hommes et qui priait donc dans les rangs avec les hommes. Et lorsque les hommes n'étaient pas là, elle dirigeait la prière pour les femmes. Et il y a même des récits, mais là, ce n'est pas prouvé, qu'elle aurait même dirigé la prière devant des hommes. Mais ça, c'est un peu plus controversé. Donc on peut dire que c'est l'une des premières intellectuelles de l'islam. Et donc là aussi, c'est quelqu'un qui a vécu du temps du prophète Mohammed. Alors, je peux continuer. Il y a une demi-douzaine d'autres noms qu'il est important de connaître. Il y a Fatima al-Samarkandi, qui est une juriste qui a tellement forte qu'elle était devenue la conseillère juridique du calife de Bagdad dans les années 1100. La première université au monde, et ça c'est en accord avec l'UNESCO, le Guinness Book Record, etc., a été fondée en 859 à Fès, au Maroc actuel, par une femme, Fatima Al-Tahri. Et cette université Al-Gharawayin, subsiste et toujours là, et est considérée comme la plus vieille université du monde, toujours en activité. Il y a toujours des étudiants qui la fréquentent, la bibliothèque est là, etc., etc. Donc on peut dire que l'université moderne, l'université que nous connaissons, a été fondée par une femme musulmane d'origine tunisienne, mais qui a vécu au Maroc, qui a hérité de la fortune de son père et qui a décidé d'investir dans une université. Une université d'ailleurs où étudia le fameux philosophe juif Maïmonide, étudia aussi celui qu'on considère comme le père de la sociologie, Ibn Khaldoun. Ils ont étudié donc à l'université Al-Kharawayn. Donc, il y a d'autres qu'on peut citer, mais la dernière, et je vais m'en arrêter là pour l'instant, c'est Rabia Al-Adamawiya, qui est une, qui est née à Basra, donc dans le sud de l'Irak, vers 701, et qui, quelquefois, est perçue comme étant la fondatrice du soufisme. Donc, elle était tellement pénétrée par ses prières que dans la chambre où elle était en séclusion, une lumière émanait qui fit intriguer les gens. Et finalement, elle s'attira un groupe de personnes très importantes qui croyaient à sa sainteté. Et donc, là aussi, c'est quelque chose d'assez remarquable dans l'histoire de l'islam qu'il y ait cette femme qui, dans les années 700, au début des années 700, est souvent, quelquefois, pas toujours, mais par certains considérée comme étant l'une des fondatrices, en tout cas, du soufisme. Et évidemment, le soufisme étant la forme de la pratique islamique la plus répandue, par exemple, en Afrique. Alors, la dernière que je voulais signaler sur le plan historique et que j'avais un peu sauté et qui était donc du temps du prophète Mohammed, c'est celle qu'on considère comme étant la première martyre de l'islam. Donc, la première personne qui a été exécutée parce qu'elle était musulmane, Soumaya bint Hayat, et qui a été exécutée après qu'on l'ait torturée pour qu'elle renonce à sa foi, etc. Et elle n'a pas renoncé et finalement, donc, les Quraysh l'ont exécutée et historiquement, elle est considérée comme étant la première martyre de l'islam. Donc, on voit là qu'il y a une profondeur historique assez importante pour justifier que les femmes aient joué un rôle majeur au début de l'islam et aussi dans sa pratique, mais aussi dans son exégèse, dans sa partie juridique et fondamentalement, évidemment, dans sa partie intellectuelle avec ses grands intellectuels dont j'ai parlé tout à l'heure et surtout la fondation de l'université Al-Kharawayn, qui est la première université fondée au monde.
Voyons maintenant l'impact d'une représentation féminine du divin. Comment pensez-vous qu'une représentation féminine du divin pourrait influencer la spiritualité des musulmans aujourd'hui?
Dans le Coran lui-même, il est plusieurs fois cité des femmes d'exception à qui on donne des rôles, disons, de fondation, de rôles d'édification, que ce soit les épouses de Noah ou d'Abraham, que ce soit évidemment Marie, donc Mariam, Bilqis, la reine de Sheba, etc. Donc, il y a beaucoup de femmes qui sont citées comme étant des exemples à suivre dans la tradition prophétique et qui ont participé à la transmission de ce qu'on peut appeler la tradition musulmane dans son élaboration et dans sa pratique. Alors maintenant, de là, est-ce qu'il y a une dimension féminine, disons, du divin? Non. C'est très clair que l'islam suggère la spiritualité. Cette spiritualité est une relation avec Dieu. Et donc, cette relation avec Dieu, elle est personnelle, elle est individuelle. Évidemment, elle peut se pratiquer en groupe, mais puisqu'elle est individuelle, en fait, elle n'est pas fondée sur un rapport de genre. Certes, maintenant, dans la pratique quotidienne des musulmans, il y a des relations qui vont être créées et être basées sur des traditions, disons, islamiques ou musulmanes. Par exemple, le mariage, l'héritage, etc. Donc, il y a plein de choses comme ça qui sont, au fond, techniques, plus qu'elles ne le sont vraiment spirituelles. C'est un peu une façon d'organiser la société musulmane. Et dans ce cas-là, effectivement, le genre compte. Une femme a des obligations qui sont différentes de ce point de vue-là. Sociologique, je parle de la sociologie et de la politique, de celle des hommes, etc., etc. Mais sur le plan de la spiritualité, il n'y a certainement pas une grosse différence à voir. L'idée de Dieu lui-même, c'est un père fondateur, créateur de tout, qui n'a pas été créé, omniscient. On l'imagine comme un homme créateur, comme un père fondateur, mais en réalité, on n'en sait pas trop. Il y a ce flou qui fait que il est très hasardeux, disons, de se mettre à épiloguer sur quel genre serait Dieu. Donc, dans le Coran et dans beaucoup d'autres textes de cet âge, sont des noms masculins qui sont utilisés, mais ces noms masculins ne sont pas des noms d'hommes, ce sont des noms de la divinité. Et donc, de ce point de vue-là, le genre a certainement une très faible importance. C'est plus sa capacité d'être le créateur, la clé de voûte de la spiritualité et de la vie des hommes qui est le plus important.
À votre avis, quels effets une divinité féminine pourrait-elle avoir sur les dynamiques de genre et l'égalité des sexes dans les sociétés musulmanes?
Bon, puisqu'on ne peut pas avoir une femme, disons, qui serait Dieu ou la déesse suprême, parce qu'il n'y en a qu'un et la place est déjà prise, en quelque sorte, si je peux m'exprimer de façon assez rapide, il est certain qu'il n'y a vraiment pas de place à cette élaboration de ce qu'on peut appeler une divinité féminine. Maintenant, ce que beaucoup de femmes musulmanes réclament, c'est un peu de retourner un tout petit peu peut-être à cette galerie de portraits qui ont joué un rôle extrêmement important dans l'islam. Et beaucoup de femmes pensent que l'islam les a reléguées dans des rôles qui finalement ne correspondent pas à leur rôle historique dans l'apparition, l'élaboration, l'adoption et la propagation de l'islam. Là, il y a ce qu'on peut appeler du féminisme musulman, en particulier dirigé par Anbara Khalidi, donc qui est une libano-palestinienne. Il y en a d'autres, mais c'est elle qui est souvent perçue comme étant la fondatrice du féminisme musulman, Anbara Salam Khalidi. Mais de ce point de vue-là, l'insertion du féminin dans le divin voudrait dire qu'il n'y est pas ou qu'il n'y était plus. Et là, c'est quelque chose qui, vraisemblablement, ne va pas susciter un très gros débat parce que le caractère omnipotent, omniscient et éternel de Dieu, disons, transgresse ou dépasse donc le caractère de genre et de ce point de vue-là, on peut dire que certainement pour beaucoup de musulmans, ce serait une discussion inutile.
Quelle résistance pensez-vous que cette idée pourrait rencontrer au sein des communautés musulmanes et comment ces résistances pourraient-elles être surmontées? Est-ce que c'est possible?
Oui, bon, maintenant, si on peut parler de la pratique en essayant de la séparer de la spiritualité, ça c'est deux choses différentes. Dans la pratique de l'islam, il y a ce qu'on peut appeler des fondements historiques qui sont quelquefois discutables et discutés, qui fait que la femme s'aligne derrière l'homme, etc., etc., etc. Dans le domaine de la spiritualité, c'est un peu plus flou, en quelque sorte, parce qu'au fond, comme on dit, il n'y a aucune raison, et c'est mentionné très clairement dans le Coran à plusieurs reprises, Dieu ne choisit pas les hommes ou les femmes pour telle ou telle mission précise. Dieu choisit ses hommes, choisit ses prophètes. C'est la mission qui est la plus importante, ce n'est certainement pas leur genre. Ensuite, la spiritualité, c'est une sorte de chemin pour accéder au plus près de Dieu. Et puisque la pratique musulmane, la pratique religieuse est individuelle, chaque individu a la possibilité, en fait, d'adopter une spiritualité qui vous rendra proche de Dieu. Ce qui fait qu'il y a bien, dans certains quartiers de l'islam, en Afrique de l'Ouest en particulier, au Sénégal par exemple, des leaders de branches soufis qui sont féminins, donc qui sont respectés, qui sont suivis par le zouaï, par ceux qui croient à ce que effectivement ces femmes ont reçu une mission de Dieu ou doivent continuer une mission qu'elles ont reçue de leur père ou quelque chose comme ça. Donc la spiritualité, elle, effectivement, les femmes peuvent parfaitement en réclamer une partie et même peuvent réclamer un certain leadership dans ce domaine-là, mais c'est dans le domaine de la pratique cultuelle où il y a cette opposition que 14 à 15 siècles de pratique de l'islam ont créé, ont cimenté une sorte de prééminence de l'homme qui fait que les femmes s'alignent derrière l'homme lorsqu'il s'agit de la pratique culturelle.
En tant qu'historien, comment comparez-vous l'acceptation et l'intégration des figures divines féminines dans différentes religions, notamment l'islam par rapport à d'autres traditions religieuses?
Alors, l'islam est un peu particulier puisque l'islam n'a pas de sacerdoce, n'a pas de prêtres qui ont un statut particulier. Le seul individu vraiment reconnu par l'islam, en quelque sorte, c'est celui qui dirige la prière et pour lequel il y a effectivement des considérations de quelle nature cet individu soit, quelles doivent être ses connaissances, etc. Donc, mais à partir de là, le reste, effectivement, c'est un peu au choix des personnes ou de la personne. Donc, par exemple, le débat sur les prêtres, comme ce débat se passe dans le monde catholique ou dans le monde protestant, ne se produit pas dans l'islam, puisqu'il n'y a pas de prêtres, il n'y a pas de cardinaux, il n'y a pas d'archevêques, etc. Donc, il y a moins de problèmes de ce point de vue-là. Alors, maintenant, il est évident que les femmes réclament la capacité, et il y a des groupes de musulmanes qui souvent sont considérés comme étant dans la marge, donc des marginales ou marginalisés ou à la frange de l'islam, où des femmes réclament l'idée qu'elles doivent être capables de diriger la prière par elles-mêmes sans avoir le touchement d'un homme, et même être capables non seulement de diriger la prière entre femmes, mais de diriger la prière à une communauté où des hommes s'aligneront derrière des femmes. Donc chaque communauté peut élire, et que si une communauté élit une femme comme imam, il y a des groupes de femmes musulmanes qui pensent que c'est parfaitement logique et c'est parfaitement légal au point de vue canonique. Mais la grande majorité des musulmans certainement serait d'un avis contraire, et donc de l'idée que, en fait, pour diriger la prière canonique, il faut être un homme d'une manière assez claire. Et que donc de ce point de vue-là, il y a un peu un conflit qui est là. Mais ce mouvement est très faible, absolument très faible, comparé par exemple au mouvement pour l'ordination des prêtres féminins dans le catholicisme ou dans le protestantisme, où c'est vraiment des mouvements assez puissants et importants qui ont pignon sur rue et qui ont des stratégies, etc., etc. Les mouvements équivalents dans le monde musulman sont beaucoup plus faibles, et même souvent, beaucoup de gens disent qu'il faut aller dans l'Occident, en Californie ou à Paris, pour trouver ce genre de groupe. Je ne prononcerai pas là-dessus, bien entendu, parce que c'est un sujet assez énorme, mais il semblerait bien que c'est plutôt dans ces conditions qu'il y a une sorte d'émulation. Ce que les femmes chrétiennes demandent, des femmes musulmanes peuvent parfaitement les demander aussi, étant donné qu'elles sont voisines, qu'elles vivent leur foi côte à côte. Et dans ce cas-là, c'est pourquoi certains disent qu'il faut aller en Occident pour trouver ce genre de groupe. Et encore une fois, qui sont très, très petits et n'ont pas beaucoup d'influence d'une manière générale.
Merci, professeur Mbodj. Nous arrivons au terme de cette édition de Dialogue des religions. On parlait de l'impact d'une représentation féminine de la divinité dans le monde moderne. Merci pour votre expertise, pour vos explications, mais aussi pour tous ces exemples que vous avez donnés.
Merci, je vous remercie et merci beaucoup de m'avoir invité.
Eric Manilakiza a été avec vous à la présentation, Michel Claire Joseph à la réalisation et à la production. Merci également à vous tous, chers auditeurs, pour votre écoute. Je vous souhaite une agréable soirée et à la prochaine. Au revoir.
Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.